comment avez-vous vécu la fin de la guerre? Donc vous étiez ici à Saint-Chamond, je crois.
Oui, oui. Oui, oui, je suis venu ici à Saint-Chamond en 17.
Oui. Et donc, quelle était l'atmosphère au moment de la fin de la guerre à Saint-Chamond, le jour, par exemple, de l'armistice?
Oh, c'est le grand soulagement. Enfin, c'est fini.
Oui. Il y a eu des manifestations de joie?
Dans la rue, les gens se rencontraient, s'embrassaient, se félicitaient. Il y avait des manifestations de joie, mais très individuelles. Il n'y a pas une manifestation organisée.
Oui. Je suppose qu'il devait être tempéré par toutes les douleurs de toutes les
familles. Bien sûr. Moi, j'ai un de mes cousins germains qui était avec moi dans l'affaire de chapeau de paille dans laquelle je travaillais. Il était de 92, du 25 septembre 92. Il était au chasseur alpin, il a été blessé aussi, et son père, pour éviter qu'il se fasse tuer, l'avait conseillé d'entrer dans l'aviation, pensant que le temps de se former pour l'aviation permettrait la guerre de finir. Et il a été tué la veille de l'armistice. S'est fait descendre en avion la veille de l'armistice.
On m'a souvent parlé, alors je ne sais pas si ça relève de l'observation ou d'une certaine superstition, d'un pressentiment qu'avaient les gens qui allaient être touchés. Est-ce que c'est un thème?
Oui, oui, il y a beaucoup de gens qui disaient, moi je sais qu'ils ne reviendraient pas.
Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont les survivants qui le disent rétrospectivement ou si c'est...
Non. Moi, j'ai entendu dire souvent des gens par la guerre, tu sais, je sais que je n'en reviendrai pas.
Oui. Et ça se confirmait.
Quelquefois, oui.
Pensez-vous, après la guerre, que là aussi c'est un sujet de controverse que j'ai vu parmi les personnes que j'ai vues, que les pensions aient été données avec suffisamment de générosité?
Oh, les pensions ont été minables. Mais moi, vous voyez, j'ai une blessure grave de la main droite. Je ne peux rien faire de cette main. Eh bien, j'ai une pension de 300 francs par an.
Et qui correspond à quel pourcentage de d'invalidité?
55%. Moi, je n'ai rien demandé, on m'a donné 55%. Mais j'ai plus de 55%, je ne peux rien faire de la main droite.
Comment se fait-il que... La France a été un peu chiche de ces deniers vis-à-vis de ces personnes qui s'étaient sacrifiées, qui avaient...
Je ne sais pas, c'était comme ça, je me suis contenté de ce qu'on donne.
Votre cas corrobore des quantités d'autres, de gens qui me disent, d'abord, on n'avait rien fait, on ne nous avait pas prévenu, ou bien on nous a fait passer visite contre visite pour nous baisser sans arrêt notre taux d'invalidité.
Oui, mais moi j'ai passé, je ne sais pas, 5 ou 6 visites.
Est-ce que vous pensez ceci, que ça a contribué à ce sentiment que les sacrifices n'étaient pas récompensés?
Chez certains, oui, chez d'autres. Les gens, moi, je n'étais pas dans le besoin, j'avais une situation sociale convenable, et une certaine aisance. Alors, je ne peux pas en comparer à d'autres, mais chez des petites gens, c'est possible.
Et est-ce que dans les populations, donc le souvenir du sacrifice de 14 s'est maintenu longtemps, parce qu'on a l'impression qu'il a décliné, là aussi. Disons que les gens ne se sont plus sentis autant entourés qu'ils l'étaient.
Oh, c'est sûr, c'est sûr. La considération dont nous avons joui au début de la guerre s'est très vite atténuée. Oui. Puis alors, la guerre de 40 était très différente.
Est-il vrai que certains ont eu des difficultés professionnelles à trouver... un emploi dans les années 20? Est-ce que c'était une période de crise?
Sûrement, c'était pas une période de... la période de crise. C'est surtout 29 qui a été la période de crise.
Mais tout de même, est-ce qu'il y avait des difficultés d'emploi dans les années 20?
C'est-à-dire que les mutilés, avec un bras comme le mien, si j'avais dû faire du travail matériel en usine, j'aurais eu beaucoup de peine à en trouver.
Et aviez-vous des places où vous étiez prioritaire?
Oui, nous avions les entreprises avaient l'obligation d'embaucher un certain pourcentage de blessés et de mutilés. Mais on ne pouvait pas forcer les entreprises.
Donc un certain nombre de gens ont dû souffrir
bien sûr
de cette mutilation qui n'était pas...
Et puis alors il y avait des fonctions réservées aux mutilés. Les conciergeries dans les usines, des téléphonistes, des choses comme ça.
Et qui était proportionnelle à la gravité de la blessure.
Bien sûr, bien sûr. Mais en général, les chefs d'entreprise étaient bienveillants.
Oui. Et donc, ces gens-là pouvaient se reconvertir dans un emploi qui n'était pas le leur avant.
Qui généralement n'était pas le leur.
Et maintenant, Monsieur le Président, vous avez donc 96 ans.
16 ans.
Quel est votre sentiment sur cette guerre de 14?
À quel point de vue?
Je vous laisse le choix des points de vue.
Ça a été une leçon sensationnelle de patriotisme.
Oui.
Et quand je pense à ce que la France était à ce moment-là et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, je constate que nous sommes en période de décadence.
Est-ce que cette saignée de 14, c'est une décadence économique et morale, à votre avis?
Ce dont souffre le plus, c'est la décadence morale. Mais alors, il y a la décadence démographique aussi. Les 1 500 000 morts de cette époque parmi les jeunes et parmi les meilleurs ont manqué à la nation française.
Bien sûr. Y a-t-il eu un changement de valeur entre avant 14 et après 14, à votre avis?
Le déclin est venu assez vite avec la Deuxième Guerre. Les gens ne sont pas partis à la Deuxième Guerre avec le même enthousiasme. Et puis on a été vaincus, lamentablement vaincus. On a eu l'impression que nous étions en période de grande décadence. Moi, quand on me fait des compliments sur le fait d'avoir 96 ans et d'être dans l'état où je suis, je leur dis « plaignez-moi plutôt ». Car à côté de tous ces avantages matériels et de santé, il y a le déclin de la morale, le déclin des mœurs, le déclin du civisme, qui me fait dire que je ne suis pas fait pour vivre dans cette société. Moi, je me demande s'il y avait une mobilisation aujourd'hui, combien répondrait à l'ordre de mobilisation?
Beaucoup, j'espère. Vous ne croyez pas à un sursaut face...
On dit qu'en ce moment, il y a un petit sursaut, mais 68 a fait un mal terrible.
Mais pour vous, le déclin remonte pratiquement aux années 30.
35, 36, 35, oui.
Donc il n'y a pas eu tout de même de coupure morale entre 14 et les années 20. C'était la suite de 14. Il y a eu simplement cette saignée démographique.
Il y a eu cette saignée démographique, mais enfin, il y a eu quand même un déclin du moral des Français.
Attribuable à quoi, à votre avis?
La fatigue de la guerre. On a vu très vite que, au fond, on ne profitait pas des avantages de la guerre. Il y a eu le déclin politique, il y a eu les dévaluations, il y a eu les différents incidents politiques. Le déclin de la période d'Hériot, le retour de Poincaré, tout ça a bousculé un petit peu le moral des gens.
Pensez-vous que le fait que l'Allemagne n'est pas payée finalement ait pu jouer dans...
Oui, ça contribuait. Les gens disaient que c'était pas la peine. Oui. Ça ne valait pas la peine de subir tout ce qu'on a subi.
Parce qu'il s'est trouvé parmi les gens que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont dit « mais la guerre s'est terminée trop tôt, il aurait fallu... envahir l'Allemagne pour imposer notre paix. Étiez-vous de cet avis?
Si on l'avait fait, c'eût été mieux, mais il faut tenir compte de la fatigue de l'époque après 5 ans.
Bien sûr.
Il est évident, quand on a vu toutes les concessions qui ont été faites après, les gens disaient que ça n'était pas la peine de se battre comme on l'a fait, de souffrir ce qu'on a souffert.
Donc, le bilan que vous dressez de cette guerre, c'est un magnifique exemple d'héroïsme et de mobilisation de la part de tout un pays. Et en fait, le début d'un déclin.
Ça montre l'état magnifique de la mentalité des Français qui aimaient leur pays, qui étaient prêts à tous les sacrifices pour leur pays. Et puis alors, les gens qui nous ont gouvernés ont fait de la démagogie, ont fait des concessions. Concession sur concession, et après le déclin a commencé. Et nous sommes en période de décadence générale.
Et pensez-vous que, d'une certaine manière, le recul du catholicisme soit un des éléments de ce déclin des valeurs morales?
Ah bien, les religions sont des codes de morale.
Bien sûr.
Et à partir du moment où il n'y a plus de religion, c'est un élément moral qui disparaît.
Et alors, comment voyez-vous, puisque on va quitter avec la, comment voyez-vous des chances de résurrection de ce pays ?
On me dit qu'il y a des jeunes qui se rendent compte qu'on leur a raconté des histoires qu'on s'est moqué d'eux en leur disant qu'on pouvait travailler moins et vivre mieux, et qui réagissent un petit peu. Et c'est peut-être le levain avec lequel on pourra repartir.
Et êtes-vous en contact avec certains de ces jeunes, parmi vos proches peut-être ?
Je vous dirais que moi je suis descendu de la scène politique et j'ai refusé d'y remonter. Et je n'ai jamais remis les pieds à l'Assemblée nationale, je n'ai jamais remis les pieds au Sénat, je n'ai jamais remis les pieds à mon groupe politique, je n'ai jamais assisté à une manifestation politique, je ne veux plus en entendre parler.
Et vous êtes considéré comme le sage par excellence ?
Je ne sais pas ce que les gens pensent, mais je vous dis, je ne veux plus entendre parler de politique. J'en suis dégoûté parce que j'ai vu trop souvent les hommes politiques faire passer l'intérêt du pays, du parti, avant l'intérêt du pays, parce que c'est du parti que l'on prend son vol pour faire sa carrière. Et puis quand j'ai débuté, moi j'ai toujours eu horreur de la politique, on m'y a poussé malgré moi.
C'est ce qui frappe dans votre livre.
On m'y a poussé malgré moi. Ma femme était dans une maison de santé, elle y restait 40 ans, j'étais démoralisé. J'étais obligé d'être à la fois le père et la mère de mes enfants, et mes amis ont dit qu'il faut le pousser dans la politique pour qu'il réagisse. C'est comme ça que j'ai fait de la politique. Qu'est-ce que je voulais vous dire ?
Mais vous dites, oui, que les hommes politiques ont tendance à faire passer
oui.
leur intérêt.
Alors, à cette époque, on faisait de la politique parce qu'on était patriote. Mmh. Et on avait des indemnités lamentables. Quand j'ai été élu député, on avait 3 500 francs par mois d'indemnité sur laquelle on retenait pour la carte de circulation et pour la retraite. On avait donc juste de quoi payer ses déjeuners. Maintenant, ils ont des indemnités formidables. Et les mandats électifs sont devenus des métiers. C'est un métier maintenant. Et les gens défendent leur métier sans se préoccuper de l'intérêt du pays.
Donc au détriment de peut-être de leurs convictions également.
Bien sûr.
Donc vous ne terminez pas sur une note... La note d'espoir serait artificielle. Ce serait peut-être cet élément de jeunesse peut-être qui reprendrait.
Je vois, moi j'ai des petits-enfants qui avaient tous l'âge de entre 18 et 25 ans au moment de 68. Mmh. Et ils étaient tous orphelins de père. J'ai donc dû m'en occuper beaucoup et j'ai été très inquiet. Je dois dire qu'ils ont magnifiquement réussi, ils sont tous extrêmement bien. Je me demandais ce qu'ils allaient m'amener comme fille pour se marier. Ils sont tous extrêmement bien mariés. Et de ce côté-là, j'ai très grande satisfaction. C'est un peu, je me dis, s'il y en a beaucoup comme ça, c'est un peu ce qui me réjouit.
Eh bien, je vous remercie infiniment.
Ce qui me remonte.
Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Président Pinet, parlons à toi.
Oui.
L'autre jour, vous étiez...
Quelqu'un me parlait de Sainte-Catherine sur Ivry où la sœur de ma mère avait épousé le maire du pays qui était un gros, gros paysan. Et on me parlait d'une source qui me rappelait quelques souvenirs. Et alors en disant vous souvenez, etc. Alors je lui ai dit en patois, je lui ai dit oui, il était après le plogny d'Oucaillon.
Donc après du cochon.
Le plogny, c'est le parc des cochons.
Ah oui. Mais chez nous, on aurait dit après le pré-dessus d'Ocoyeux. Parce qu'on avait le terme caillon, mais on a préchon pour dire le petit parc.
Oui.
Ah oui, d'Ocoyeux. J'ai d'ailleurs...